100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean-Sara Méa, historien, raconte les années anniversaires de 2025. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 100 ans d'histoire. Nous sommes avec Jean-Sara Méa, historien et géographe. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'année 1925.
Eh oui, alors, selon la formule habituelle, un bon anniversaire à celles et ceux qui ont déjà ou vont avoir 100 ans et on leur souhaite toute la santé nécessaire pour nous écouter.
Alors, que se passe-t-il en 1925 dans le monde ?
Alors, dans le monde, juste 3 ou 4 événements dont on peut, c'est subjectif bien sûr, mais rappeler la mémoire. Chiang Kai-shek devient le chef du Kuomintang et en définitive de la Chine. Il est bien oublié, mais à Taïwan, il y a ses portraits, disons, un peu partout. Parce qu'en 1949, c'est lui qui est le chef d'État de Taïwan. Aux États-Unis, c'est le président Coolidge, bien oublié lui aussi, sauf qu'il a donné son nom à un grand barrage sur un des fleuves, qui devient président. Ah, quelque chose d'oublié, et pourtant ça a été grave, ça a duré plusieurs années, c'est la guerre du Rif. La guerre du Rif, c'est la partie nord du Maroc, qui avait été dévolu à l'État espagnol, et les différentes tribus arabes ou berbères se révoltent contre la colonisation espagnole. Et comme ça déborde sur le Maroc français, et que le résident français Lyautey, qui était là depuis longtemps et qui était, disons, approuvé par une grande partie de la population, n'arrive pas à éviter la menace qui descend vers Casablanca, la France le rappelle et nomme le maréchal Pétain à sa place. Et le maréchal Pétain va en plusieurs années écraser cette révolte du Rif. Autrement, il en reste une formule. Ibn Saoud devient le chef d'État d'un nouveau pays, l'Arabie Saoudite. D'où Arabie Saoudite.
Et ensuite, en Europe, alors ?
Alors, en Europe, en Union soviétique, Trotsky est écarté par Staline avant d'être beaucoup plus éloigné. Quelque chose de bien oublié, mais qui est un petit peu poétique. La capitale de la Norvège s'appelait Christiania. Et cette année-là, elle devient Oslo.
À quel titre ?
Je ne sais pas trop. Mais je me souviens de mon professeur d'histoire, c'était au milieu des années 60, qui disait encore Christiania. On se demandait bien qu'est-ce que c'était. Voilà. Autrement, Hindenburg est élu président de la République de Weimar, c'est le Reich allemand. En Italie, Mussolini fait en sorte que le parti fasciste soit un parti unique. Chypre, l'île de Chypre devient colonie britannique et l'Angleterre y installe des bases militaires qu'elle a toujours. La France évacue le bassin charbonnier de la Roure. Ça avait été occupé sur l'ordre de Poincaré pour faire pression sur l'Allemagne pour qu'elle paye les réparations, ce qui permet la tenue de la conférence de Locarno, c'est en Suisse, qui va en quelque sorte apaiser les relations européennes avec une réconciliation momentanée, mais enfin à l'époque c'est bienvenu, franco-allemande, et l'Allemagne entre à la Société des Nations.
Et alors, dans ce contexte de tensions montantes, qu'en est-il en France plus précisément ?
Alors, c'est une année quelque peu troublée. Le président de la République, c'est Gastounet, pour les intimes, il était près de Toulouse, c'est Gaston Doumergue. Et le président du Conseil, parce qu'on ne dit pas Premier ministre sous la Troisième République, c'est Paul Painlevé qui est président de la Chambre, et puis Édouard Herriot, le célèbre et pendant encore plusieurs décennies maire de la ville de Lyon. Mais la majorité de gauche, ce qu'on appelle le cartel des gauches à la France, qui a été élu en 1924, se fracture sur les choix économiques, pas seulement, il y a aussi des problèmes politiques. Et le cartel des gauches va, disons, imploser, ce qui sera effectif l'année suivante.
Là, c'était d'un point de vue politique.
Tout à fait.
Qu'en est-il pour la culture ?
Alors, dans le domaine musical, Maurice Ravel, il y a beaucoup d'émissions très bienvenues, culturelles et musicales, sur plusieurs chaînes françaises pour rappeler ce grand musicien et compositeur qu'a été Maurice Ravel. Alors, en 1925, il compose « Enfants et sortilèges ». Autrement, c'est une grande exposition des arts décoratifs à Paris et c'est quasiment la première fois qu'il y a des timbres-poste figuratifs. Jusque-là, c'était des symboles plus ou moins liés à l'Antiquité. Là, c'est connu en philatélie. L'exposition des arts décoratifs est peut-être un peu moins courue. L'exposition des surréalistes et du surréalisme à Paris. Les films, oh, à l'étranger, c'est le cuirassé Potiemkin d'Eisenstein. Grand film en noir et blanc, on est dans les films en noir et blanc à l'époque, et sans musique. Il faut attendre 1927 pour qu'il y ait un petit peu de musique. Charlie Chaplin, c'est La ruée vers l'or. Autrement, en littérature, Kafka, qui est mort l'année précédente, est publié à titre posthume, c'est Le procès, célèbre ouvrage sur l'absurde de Kafka. Le prix Goncourt en France est remis à Maurice Genevoix, dont on parle encore pour Rabolio. Oh, c'est l'histoire des braconniers dans la boucle de la Loire, c'est-à-dire en Sologne, en définitive. Et puis, Sidney Bechet et Joséphine Baker triomphent dans La Revue Nègre à Paris. Bon, évidemment, ce n'est pas tous les Français qui pouvaient se déplacer. N'oublions pas qu'il n'y a pas la télévision, mais il y a déjà la radio. À partir de 1920-21, on peut acheter et brancher sur secteur, bien sûr, des postes de radio. C'est encore très cher en 1925. C'est la moyenne et la haute bourgeoisie qui peuvent se payer les postes de radio. Ça se démocratisera dans les années 30.
Et alors, à la radio, est-ce qu'on peut avoir les informations sportives ?
Oh oui, 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 tout à fait. Oh, juste deux ou trois éléments. Le Tour de France est gagné par un très grand cycliste italien qu'on a bien oublié et qui en gagnera d'autres, c'est Bottecchia. Eh oui, c'est vraiment ancien. Autrement, la France triomphe en tennis à Wimbledon. C'est de nom très célèbre, puisqu'ils ont donné leur nom soit à une certaine mode, soit à un cours de Roland-Garros, c'est Suzanne Lenglen. Suzanne Lenglen, on peut prononcer des deux façons, pour, qui était fantastique au point de vue tennis woman, comme on disait, et René Lacoste. Ah, le petit crocodile, hein, par la suite. Bon, autrement, eh bien, l'explorateur norvégien, c'est à la fois du sport et de la découverte, et le premier humain à atteindre le pôle Nord, c'est Amundsen. Amundsen, pôle Nord, hein, pôle Sud, on en parlera d'autres années.
Et 1925, c'est donc une année de décès et de naissance. Par quoi voulez-vous commencer ?
Bon, alors, on va faire ça dans l'ordre chronologique. Aristide Bruand, qui est un briefier, qui est totalement oublié. C'était un chansonnier, disons, d'avant 1914. Voilà. Le cinéaste Louis Feuillade, bien oublié lui aussi. Le premier président de la République chinoise depuis 1911, Sun Yat-sen. Clément Ader, qui lui aussi a été timbrifié, c'est le premier être humain à faire décoller un avion, donc un plus lourd que l'air. Oh, c'était dans les années 1890, il a décollé de quelques centimètres. Mais bon, Clément Ader, un ingénieur français. Le comédien Lucien Guitry, la famille a été célèbre également par la suite. L'astronome Camille Flammarion, L'écrivain, quelque peu sulfureux, mais très connu à l'époque, Pierre Louys, à la fois écrivain et poète. Et puis, un comique très célèbre, mais qui n'a pas supporté d'être concurrencé par des comiques plus jeunes et qui se suicide à 42 ans, c'est Max Linder, toujours dans des films en noir et blanc.
C'était donc les décès de l'année 1925.
Oui, c'est un choix. Hein. Vous m'excuserez, je ne peux pas faire une liste avec énormément de personnalités. Je connais une radio sœur, disons, dans le Midi, où mon collègue historien détaille les religieux canadiens, les religieux australiens, etc. À chaque fois, je me dis, mais enfin, même à l'époque, est-ce qu'il les connaissait ?
Oui, il y a beaucoup de noms qu'on redécouvre, voire dont on n'a jamais entendu parler. Et donc, c'était les décès et maintenant les naissances.
Alors, toujours dans un ordre chronologique, l'acteur Paul Newman, l'écrivain Alfred Grosser, qui sera très célèbre, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, l'acteur Pierre Mondy, le grand coureur cycliste français qui va gagner 5 fois le Tour de France, 4 fois au moins, dans les années 50, Louison Bobet, avant de créer une célèbre thalassothérapie en Bretagne, le cinéaste anglais Peter Brook, le compositeur français Pierre Boulez, le sculpteur suisse très connu et très coté, Tinguely, Jean-Paul Aron, un écrivain et philosophe, disons, français, le cycliste qui a gagné le Tour de France, plus tard, bien sûr, Raphaël Geminiani, le patron des patrons, Yvan Gattaz, qui est décédé il y a quelques semaines, Jacques Delors, homme politique qui a été important et célèbre dans les années 70-80 à la tête de l'Union européenne, Alain Decaux, un célèbre historien qui a eu des décennies de gloire en racontant de façon excellente sur les radios ou même à la télévision des personnages ou des événements. L'écrivain Alain Perfitte, qui s'est rendu célèbre au milieu des années 70 par un livre « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Ça a fait sourire à l'époque et de nos jours un peu moins. Le comédien Darry Cole, Maurice Pialat, cinéaste français, Peter Sellers, l'acteur britannique, Margaret Thatcher, premier ministre pendant quasiment toutes les années 80 au Royaume-Uni, l'actrice et chanteuse, mais surtout actrice grecque, Mélina Mercouri, l'acteur français Roger Hanin, l'acteur Richard Burton, l'ancien Premier ministre français qui a terminé tragiquement, Pierre Bérégovoy, et Michel Piccoli.
Eh bien, peut-être certains noms vous diront quelque chose selon votre âge, vos affinités, votre histoire. Alors, pour finir, quelle chanson nous proposez-vous, Jean-Sébastien?
Il n'y a pas énormément d'enregistrements uniquement sur cette année 1925. Vous pouvez acheter évidemment un CD qui va faire toutes les années 20. Disons, elle est connue, très chantée, y compris dans les années 30. Ce n'est pas une chanson à texte ni philosophique, mais c'est cette chanson qui a lancé Maurice Chevalier, qui était jeune, en 1925. Oh, c'est Valentine, avec ses petits petons.
Je rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin, et puis je lui pris la main. Je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petit poton. Valentine, Valentine, elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tonton, tontelle, elle avait un tout petit menton. Valentine, Valentine, outre ses petits petons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Sur le boulevard, je rencontre une grosse dame avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour mon loup ». Je lui dis « Pardon madame, mais qui êtes-vous ? » Elle me répond « Mais c'est moi, Valentine ». Vend son double menton, sa triple poitrine. Je pensais rempli d'effroi, ce qu'elle a changé ma foi. Dire qu'autrefois, elle avait de tout petit poton. Valentine, Valentine, elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tonton, tontaine, elle avait un tout petit menton. Valentine, Valentine, outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton.